Salut à tous, salut à toutes, vous êtes bien sur les ondes de Radio Zindine et vous avez bien raison. On est donc toujours en direct comme tous les samedis soirs des studios de Radio BAM à Marseille pour les infos du jour. Avec nous ce soir Damien.
Salut.
Et Camille.
Bonsoir.
Nous sommes donc en comité réduit et bien sûr Luc à la technique qu'on salue avec chaleur pour se réchauffer parce que ça s'appelle hein, aujourd'hui à Marseille. Alors aujourd'hui on va faire un bref aperçu de ce qui se passe un petit peu en ce moment à Marseille, des événements culturels, quelques manifs aussi qui s'organisent doucement. Au niveau local, on parlera notamment de la mobilisation des parents d'élèves du 15e arrondissement de Marseille contre la fermeture, le changement de la carte scolaire et la sortie de zone ZEP de quelques établissements. Et puis aussi, on parlera évidemment de la Marseillaise, du quotidien de la Marseillaise qui a prêté donc en redressement judiciaire. Et il y a eu un candidat à sa reprise. Damien nous en touchera quelques mots. Au niveau national, on parlera d'une manif islamophobe dans ces temps bien réjouissants. On en remet une couche à Paris, donc le 18 janvier. Damien nous en dira
ouais,
un peu
plus. Le pire n'est jamais
plus.
Sûr, mais en tout cas, il se prépare.
Exactement. Et puis, on parlera du procès mardi 20 janvier du groupe ZEP, Zone d'expression populaire, pour une chanson qui a fait des vagues. Et au niveau international, donc notre invité du jour, dont on a eu un interview hier, mais dont voilà, on va vous passer l'enregistrement. Donc est une personne qui s'est engagée dans la campagne BDS, donc boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël, et elle nous expliquera un petit peu en quoi consiste la campagne, son origine et comment ça s'organise en France et un petit peu aussi à Marseille. On aura quelques éléments de contextualisation et puis Camille nous parlera de la lettre ouverte d'Edoui Plenel à François Hollande qui a été publiée cet été. Pendant le conflit à Gaza, notamment. Damien, on va commencer avec les éphémérides.
Oui, alors les éphémérides de ce 18 janvier, dimanche 18 janvier, si vous écoutez la rediff, c'est bien le bonjour. Et sinon, c'est demain pour ceux qui nous écoutent en direct. Alors, on va revenir loin dans notre passé. Le 18 janvier 1689, naissait Charles-Louis de Montesquieu, près de Bordeaux. Alors Montesquieu, c'est un peu le père de la science politique en France. Il s'est inspiré des penseurs déjà anglais, et notamment dans son chef-d'œuvre « L'esprit des lois », était un des premiers penseurs à proposer de confier les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires à différents organes, et donc à séparer les pouvoirs. Il avait déjà aussi l'idée de séparer le pouvoir législatif en deux, ce qui donnera les deux chambres qu'on a toujours jusqu'à aujourd'hui dans notre Constitution.
Ça vaudrait peut-être le coup qu'on le relise de temps en temps.
Ça peut valoir le coup, oui. Alors donc voilà, ça c'était en 1689, un peu plus proche de nous. En 1919 avait lieu la conférence de paix de Paris, donc suite à la Première Guerre mondiale. Et donc on négociait dans ces traités la disparition de trois empires, l'empire allemand, l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman. Lors de ces accords renaissait aussi la Pologne qui avait été avalée et la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie apparaissaient. Les colonies allemandes étaient aussi dilapidées et partagées entre le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Japon. Et c'est aussi à cette époque-là que le Proche-Orient, qui était une possession turque, a été divisé en différents mandats, notamment confiés à la France et à l'Angleterre. C'est aussi à l'occasion de cette conférence qu'on a décidé des sanctions qui allaient peser sur l'Allemagne sur les années à venir et qui préparaient, comme on le sait aujourd'hui, la future guerre mondiale, la seconde. Toujours dans les éphémérides, en 1994, un 18 janvier, quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup à cette antenne, Berlusconi annonçait la création de sa nouvelle formation politique Forza Italia et se lançait dans une nouvelle campagne électorale. Il remportait les législatives suivantes et formait ensuite un gouvernement de coalition avec des alliés de droite et d'extrême droite, notamment la Ligue du Nord d'Umberto Bossi et l'Alliance Nationale de Gianfranco Fini. Voilà pour les éphémérides de ce 18 janvier. Je termine avec une dernière chose. En 2001, le Parlement français reconnaissait le génocide arménien.
Dont on fête le triste le centième anniversaire cette année. Voilà. Merci Damien pour ces éphémérides. On passe à l'agenda. Camille, peut-être que tu peux nous parler de la Biennale du Cirque qui va se tenir bientôt à Marseille.
Oui, alors si vous ne l'avez pas vu passer sur les nombreux panneaux d'affichage, elle se tiendra du 22 janvier au 22 février. C'est Biennale internationale des arts du cirque de Marseille, PACA. Donc c'est tout un mois qui sera consacré, entièrement dédié aux arts du cirque à Marseille et dans 23 autres villes, notamment Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Cavaillon, Ancieuse-la-Rodogne, Gap et j'en passe. Plus de 60 spectacles en tout, 260 représentations, 300 artistes différents, un tiers des représentations en première mondiale, 100 000 spectateurs attendus et une soirée d'ouverture à ne pas manquer qui aura lieu le 24 février avec 6 différentes scènes ouvertes au public entièrement gratuites et la traversée par le funambule Didier Pasquette du Vieux-Port à plus de 30 mètres de haut sur une distance d'environ 300 mètres. Voilà, un petit coup de foudre, une compagnie qu'on vous recommande à Radio Zinzine. Le Cirque Bizarre qui propose un cabaret clownesque les 4, 6 et 7 février. 4 février, ce sera à 16h30 et les 6 et 7 février à 23h. Ce sera au niveau du village. Alors, je n'ai pas bien noté le nom du coup.
Sur l'esplanade du J4 devant le Mucem où il y a un chapiteau qui a été monté ou qui va être monté bientôt en tout cas pour l'occasion qui s'appelle le Magic Mirror.
D'accord.
Voilà. N'hésitez pas. Damien, ouais. On revient vers toi alors qu'il y a une assemblée qui va se monter là le 18 janvier, c'est ça ? Contre les violences policières.
Alors oui, elle est déjà montée, elle se réunit assez régulièrement depuis déjà un petit moment, mais donc le demain 18 janvier à 19h aura lieu au kiosque rue Clovis Hugues dans le 3e une nouvelle assemblée contre les violences policières qui est l'occasion de s'organiser pour pouvoir résister à la répression. Autre date à retenir, si vous vous intéressez à l'économie, vous avez forcément entendu parler des économistes atterrés qui avait sorti un premier bouquin il y a un an à peu près. Et ils ressortent un nouveau bouquin aujourd'hui qui apporte, en plus des critiques qui ont déjà été formulées contre la politique économique d'austérité, des tentatives de solutions, des propositions qui peuvent être utiles au débat. Donc ce nouveau manifeste des économistes atterrés sort le 21 janvier et il coûte 10 euros. Dernière date à annoncer, samedi prochain, donc le 24 janvier, aura lieu une grande manifestation au départ à 14h30 du Vieux-Port. C'est une manifestation à l'appel de la convergence des luttes qui s'était montée il y a exactement un an et qui avait pour but de coaliser un petit peu les forces hostiles à justement cette politique d'austérité. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller manifester le 24 janvier à 14h30 sur le Vieux-Port pour protester contre l'austérité, contre la nouvelle loi Macron et pour l'emploi et peut-être même pour la presse, puisqu'il y a beaucoup de salariés qui se sentent très concernés dans la région, notamment la SNCM, les salariés des moulins Morel qui occupent leur usine, les salariés de McDo qui étaient en grève hier. Les salariés également de la raffinerie de sucre Saint-Louis, dont entre 50 et 80 emplois sont menacés, et il semble que la pérennité même du site soit menacée à moyen long terme. Et enfin, la presse régionale, notamment le Ravi et la Marseillaise, qui sont aussi menacés en ce moment.
Alors, je rajoute rapidement aussi que se tient ce week-end, donc aujourd'hui et demain jusqu'à midi. C'est un peu tard, mais ça s'est organisé un petit peu dans l'empressement, notamment après l'annonce de redressement judiciaire de la Marseillaise. Alors, ce week-end, donc, il y a à Arles qui se tient une sorte de colloque les 24 heures de la presse, qui, donc ça a été appelé la presse, sa presse. Donc il y a une page Facebook notamment qui a été créée pour l'occasion. Et donc c'est un rassemblement et des interventions de gens un peu du monde de la presse indépendante d'un peu partout. Évidemment avec les gens de la Marseillaise, du Ravi en particulier, du journal Gai Savoir à Arles, et de quelques grands noms aussi de la presse nationale, la presse indépendante nationale. Et si vous voulez aller voir ce qui se passe par là-bas, il faut s'inscrire. Donc vous pouvez aller voir sur la page Facebook notamment, c'est accessible à tous, même ceux qui n'ont pas Facebook, pour toutes les informations et puis les mails où on peut avoir plus d'amples informations. On passe à l'actualité locale. Alors on a un reportage d'une poignée de minutes qui nous présente un petit peu les manifestations de parents d'élèves dans les quartiers nord de Marseille. Camille, tu peux nous en dire deux mots avant qu'on passe le son peut-être ?
Oui, qu'est-ce que je peux rajouter ? Donc c'est un groupe de parents d'élèves qui sont pas d'accord avec la refonte de la carte scolaire à Marseille. Ça se passe à Herbel.
Donc Herbel, ouais, quartier est de Marseille, ouais. Et quartier très populaire, c'est vraiment un amas de grosses cités, quoi.
Et ça s'est passé cette semaine.
Voilà, et en gros, ils protestent contre la sortie de certains établissements, écoles. Là, en l'occurrence, c'est des écoles, mais je crois aussi que ça concerne aussi des collèges dans ce
on
quartier.
On fait sortir des établissements du dispositif ZEP. Donc en fait, c'est les établissements qui ont apparemment réussi à améliorer un petit peu la situation. Ben, on leur supprime les aides pour les diminuer, plus que pour les allouer à d'autres établissements qui seraient plus en difficulté, quoi.
Voilà, donc on va écouter ce son alors qui nous a été envoyé par une collègue de Radio Galère, Tiffen, qu'on remercie.
Ouais, on te remercie et puis on les salue bien, les
voilà,
collègues.
On les salue et voilà, on les écoute.
Depuis lundi, nous avons enchaîné les écoles et aujourd'hui, nous avons enlevé une chaîne à l'école et nous avons séquestré directrice et enseignants.
Mais il y a plein de mamans qui attendent devant le portail parce qu'ils ont mis un cadenas et les maîtresses sont coincées.
Je l'ai juré au préfet hier. On n'enlèvera pas les cadenas tant qu'ils ne reviendront pas sur leur décision.
Ils n'ont pas parlé d'Herbel hier. Ils ont parlé de l'Herbel
hier.
Mais ils n'ont pas absolument pas
parlé. Les enfants de l'autre quartier sont tous un peu nos enfants. On doit être concernés tous dans notre cœur par ce problème-là. Ça, c'est sûr et certain. Ils ne sont pas au courant à Paris de ce que nous vivons ici. Mis à part les mauvaises choses, bien entendu. Je les appelle devant vous parce qu'ils attendent qu'on leur envoie un mail. S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. Allô ? Oui, bonjour madame. Pardon ? Il faut rappeler à 9h. Il n'y a pas de problème, on va vous rappeler à 9h. C'est à propos d'une école qui va sortir de ZEP. C'est l'école de la cité Herbel dans le 11e arrondissement à Marseille. Nous sommes en ZEP, nous devons en sortir. On va envoyer un email, mais je veux vous appeler parce que je suis là devant l'école avec tous les parents. Je sais, mais il faut absolument que vous compreniez l'enjeu des choses. Je vais rappeler à 9h et de toute façon, nous avons votre mail et nous allons vous envoyer un mail avec des documents qui montre que dans des autres villes, le tir a été rectifié. Nous sommes un quartier de 7000 habitants et nous avons 600 élèves dans l'école. Avec un taux de délinquance chez les jeunes important, nous sommes en zone de sécurité. Et ça ne sert à rien de faire de la répression si le côté éducatif ne suit pas. Nous rappelons dans une demi-heure, madame, vous êtes le standard et je ne vais pas vous déranger davantage. Merci de m'avoir répondu et de m'avoir écouté surtout.
Je suis madame Mamène Chantal, je suis parent d'élève sur l'école d'Herbel. J'ai 4 enfants et deux sur Herbel. Un qui est en CM2 et une qui est au CP.
Moi, je suis parent d'élève. J'ai deux enfants à l'école, un en CM1 et le deuxième en maternelle.
Voilà. Récemment, une carte géographique est sortie, précisant les secteurs qui allaient être en ZEP et d'autres non. Sur Herbel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de souffrance. Il y a 70%, comme elle a dit ma collègue, 70% d'enfants en difficulté scolaire. Si on nous enlève les avantages de la ZEP, nous perdons quoi ? Des enfants qui sont déjà en souffrance scolaire seront avec les enseignants auront des enfants 30, c'est une classe qui sera surchargée, où elle ne pourra pas s'occuper vraiment des enfants en difficulté. Même si elle voudra, ça sera impossible. L'aide aux devoirs sera partie. Les sorties, qu'est-ce qu'il y aura ? L'aide, la coopérative qui augmentera. En sachant que nous sommes 7000 habitants, voire peut-être plus, sur le quartier, où il y a à peu près, on va dire, 60% de parents qui ne travaillent pas. Donc, ça sera une réelle difficulté pour payer la coopérative quand les parents auront un, deux, voire trois enfants.
C'est quoi la coopérative ?
C'est des frais pour les sorties.
Pour les sorties, pour les photocopies,
pour
le théâtre, hein, pour aller à la piscine, pour les fins d'année, les sorties de fin d'année, pour des spectacles.
Voilà. Ça a été annoncé quand, ça, vous vous en souvenez ?
Le 10 décembre.
Voilà.
Où les enseignants, directrices, ont fait appel aux parents d'élèves, où après nous avons véhiculé l'information aux parents, car je les précise bien, aucun parent d'élève ne peut travailler sans les parents. Nous sommes solidaires, parents et parents d'élèves.
Enseignants, faut pas les oublier aussi, hein.
Non, je les oublie pas, je les oublie pas.
Et du coup, vous l'avez appris par les enseignants, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
On a bloqué l'école.
Il y a eu une réunion extraordinaire. Nous avons pris un petit peu les locaux à l'école, un petit peu en force. Et nous avons informé les mamans, les parents, que nous allions faire à ce moment-là, décembre 2014, blocus. Nous avons dormi trois nuits d'affilée, trois journées 24/24, c'est-à-dire l'école n'était pas fermée. On a fait un roulement. J'ai dormi moi-même pendant trois nuits à l'école, où j'ai dû malheureusement laisser mes enfants seuls, car je suis une maman qui élève ses enfants seule. Et donc il faut se dire que c'est très dur pour nous, hein, parce que nous avons nos enfants pour l'instant ne travaillent pas, les évaluations ont été arrêtées. Mais c'est pour notre cause, c'est pour que Madame Boyer, la mère du 11e, Madame Combes, Madame Casanova, Madame Galli, puissent nous entendre, nous écouter. Hier, il y a eu une marche, mardi 13 janvier, où enseignants et parents étaient solidaires. Nous avons fait la marche de Noailles à l'académie et l'académie à la préfecture. Le 20, il y aura un vote décisif, où la carte géographique sera vraiment terminé. Rien n'est joué et nous reconduirons. Donc nous continuons de toute façon à faire blocus, à fermer les écoles. Je dois vous dire qu'il n'y a pas que nous à Herbel. Il y a en ce moment la Rouguière où les blocus font. Il y a la Soude, il y a la Cayolle, il y a la Baume, il y a Castellane, je crois. Il y a d'autres secteurs de toute façon sur Marseille où les parents, c'est vrai, se sont réveillés peut-être un peu tard, mais ont pris notre exemple. Pas d'école.
Voilà, donc c'était un reportage à Herbel, dans les quartiers Est de Marseille, par Tiffaine de Radio Galère, hein, qu'on remercie encore une fois, et on ne manquera pas de suivre l'actualité un peu de ces mobilisations. On passe à l'actualité nationale. Damien, tu vas nous présenter une manifestation tout à fait dans l'air du temps, ouais. Qui se passe à Paris, enfin qui va se passer à Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors si vous avez cru à cette belle unité nationale du 11 janvier, vous allez très vite déchanter. J'ai sous les yeux une affiche qui attend d'être placardée à Paris. Une affiche toute rouge sang, sur laquelle en haut est écrit déséquilibré, virgule, égorgeur, virgule, chauffard. Alors on ne sait pas pourquoi chauffard, on ne comprend pas très bien. En dessous, il y a une grosse carte de la France avec des mains qui tendent des cartons rouges. Et le gros titre, c'est marqué « Islamiste hors de France ». Et donc cette affiche...
Clair, hein.
Ah oui, c'est clair. C'est clair. Bon, ils ont rajouté le « ist ». Je ne suis pas sûr que tout le monde était d'accord dans leur réunion avant. Mais en tout cas, voilà, l'affiche ressemble à ça. Et elle annonce un rassemblement le dimanche 18 janvier. Donc demain à 14h30 à Paris, au départ de la place de la Bourse. Donc surtout n'allez pas là-bas, à moins que vous soyez un antifa avec tous vos amis, ce qui risque probablement de se passer d'ailleurs.
Qu'on sait qui est à l'origine de ce rassemblement ?
Bien sûr. Alors sur l'affiche, il y a les deux principales associations qui ont lancé cette idée. La première, c'est Résistance Républicaine. Et l'autre, c'est Riposte Laïque. Mais bon.
Qui sont d'ailleurs sous les feux du projecteur en ce moment avec les histoires de Charlie Hebdo et qui s'expriment de très nombreuses, qui se sont exprimés en tout cas très nombreuses fois à ce sujet. Donc voilà, super. Hein, on est très heureux de les avoir dans le paysage médiatique en ce moment. C'est génial. Donc très bien, merci.
Donc voilà, alors ouais, non, juste une dernière association qui a décidé de se joindre à la manifestation au dernier moment. Il s'agit de la Ligue de défense juive qui s'est liée à cette manifestation. Alors j'ai pas pu avoir d'informations récentes puisque la manifestation est demain, mais les dernières nouvelles que j'avais, on ne savait pas si la préfecture de Paris avait accepté ou pas le tracé de cette manifestation. Donc il y a encore peut-être, en tout cas pour moi qui ne suis pas au courant, un espoir que la manif n'ait pas lieu.
En tout cas, c'est toutes les saintes villes qui sont réunies, donc qui ont en tout cas ce désir de se réunir.
Et puis on voit que ce qu'on craignait arrive. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a eu des manifestations beaucoup en Allemagne avec le mouvement Pegida.
Notamment à Dresde.
Voilà, notamment à Dresde. Mais même à Berlin, c'est ça qui est étonnant, qui est une ville plutôt antiraciste et à laquelle on ne s'attendrait pas à accueillir une telle manifestation. Et ben voilà, c'est en train d'arriver chez nous, donc suivez ça demain si vous le pouvez.
Merci Damien, on ne s'en manquera pas de suivre ça avec un peu de frisson quand même dans le dos, bien sûr. Alors, dans le même genre de réjouissance, nous avons le mardi 20 janvier, donc après-demain, ou selon le jour où vous écoutez, le procès donc du sociologue Saïd Bouamama et du chanteur Saïdou du groupe ZEP. Donc pas les mêmes ZEP dont on parlait tout à l'heure, mais le groupe ZEP qui veut dire Zone d'Expression Populaire, un groupe de rap. Donc ils ont été accusés par la GRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme de l'Identité Française et Chrétienne. Alors bon, on ne comprend pas vraiment exactement le... Enfin bon, c'est un peu tordu comme nom.
Si, c'est des caliméros avec une coquille sur la tête.
D'accord, bon, en tout cas, bon, voilà, ça a le mérite d'être assez clair. Et donc, cette association d'extrême droite, un peu nostalgique de l'Algérie française, a accusé le groupe ZEP donc, pour injure publique et provocation à la haine et à la violence pour une chanson intitulée « Nique la France ». Donc, alors, évidemment, tout en provocation. On va en écouter peut-être un petit morceau pour que vous ayez une idée.
Ouais, puisque cette pub due donc à cette plainte n'est pas suffisante, on va encore un petit peu en rajouter du coup. Voilà. Tant qu'elle n'est pas interdite, la chanson.
On vous laisse juger par vous-même.
MC Jean-Pierre, 2-0-10.
C'est du lourd, gros.
Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Ça y est, c'est réglé. Maintenant, c'est formel. Ça y est, c'est confirmé. voies ministérielles. Les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés. Carte blanche pour les gros bofs qui ont la haine de l'étranger.
Petit bourgeois, démocrate républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels. Un mythe, un mirage, un mensonge officiel.
Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir.
Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son...
Voilà, donc c'était un petit extrait de cette chanson pour laquelle le groupe ZEP a été accusé, en tout cas par cette association, donc d'injure publique et de provocation à la haine et à la violence. Et alors, en soutien à ce groupe-là, il y a une pétition qui circule sur Internet et qui, donc, dans laquelle ils revendiquent le droit à l'insolence antiraciste. Et donc c'est une pétition qui a largement, enfin qui a déjà été largement signée par évidemment beaucoup d'artistes, de rappeurs, je sais plus exactement, mais DM, Zebda, enfin voilà, beaucoup de
et noms. Charlie Hebdo.
Et Charlie Hebdo, voilà. Et donc vous pouvez la retrouver sur Internet. Alors pétition.lesinrock.com/devoir insolence et encore un slash. Je la refais. pétition.lesinrock.com/devoir insolence et un slash pour finir. Voilà, c'était c'est une actualité aussi qu'on suivra de près et dont on tiendra au courant en tout cas sur les prochaines évolutions. On passe à l'actualité internationale. On va diffuser une interview qu'on a eue avec Imen Abb, qui est militante dans la campagne boycott, désinvestissement et sanctions. Peut-être avant de passer l'interview, Damien, tu vas nous donner quelques informations récentes au niveau de l'actualité en Israël et en Palestine, et notamment les implications que ça a en France. Est-ce que tu peux nous parler notamment de la venue de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à Paris, pas plus tard que dimanche dernier, dis donc.
Oui, donc ça vous l'avez suivi. Apparemment, depuis les informations qu'on a eues, il n'était pas réellement invité, en tout cas pas officiellement, mais en tout cas il s'est invité.
Mais bien présent.
En tout cas, il était très bien reçu par François Hollande. Donc ça pose question, surtout que le discours de Benjamin Netanyahou a été d'appeler les juifs de France à rentrer, entre guillemets, à déménager, à émigrer vers Israël. Et d'ailleurs, c'était la une du journal La Provence ce matin qui titrait sur le fait qu'il y avait 500 Marseillais cette année qui étaient partis rejoindre Israël. Et alors j'ai trouvé une coupure de presse du journal Haaretz, donc journal israélien, qui s'offusquait de ce
plutôt
discours.
À gauche, hein.
Ouais, marqué plutôt à gauche. Il y en a en Israël. Hein.
Bien sûr.
Donc il y avait autre chose dont il me semble qu'il est important de parler. Vous le savez, on vous l'a dit à cette antenne, la Palestine a adhéré à la Cour pénale internationale début janvier. Et donc cette cour a ouvert hier un examen préliminaire à une éventuelle enquête contre donc l'État d'Israël. Donc ça concerne des crimes de guerre, notamment une vaste campagne d'arrestation en Cisjordanie qui avait suivi le double enlèvement et le meurtre de deux jeunes Israéliens le 12 ou le 13 juin 2014, qui avait déclenché le cycle de violence qui a abouti sur la troisième offensive contre la bande de Gaza en 6 ans. Et 2200 Palestiniens en majorité civile morts et 70 côté israélien. Et donc voilà, cette décision de la Cour pénale internationale d'ouvrir un examen préliminaire a été jugée par Avigdor Lieberman, donc le ministre des Affaires étrangères israélien. Donc il a jugé cette décision avait pour objectif de saper le droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme.
Il faut peut-être préciser que Lieberman fait quand même partie de la droite, de l'extrême droite israélienne.
De l'extrême droite, oui.
Voilà,
puisqu'on a une coalition entre la droite, la vraie droite, et l'extrême droite la plus
La droite de Netanyahou. Hein.
La droite donc de Netanyahou et l'extrême droite de Avigdor Lieberman.
Voilà, donc on va passer donc l'interview qu'on a réalisée hier soir avec Imen Ab, qui est donc à Paris, et qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que la campagne BDS, et nous présenter aussi un petit peu Génération Palestine, une association dont elle a fait partie ces dernières années. On l'écoute.
En fait, B comme boycott, D comme désinvestissement, S comme sanction, est une campagne qui a été lancée à l'appel de plus de 171 associations de la société civile palestinienne. C'est une campagne qui est née en 2005 donc en Palestine et qui s'adresse aux sociétés civiles du monde entier. Donc partout dans le monde aujourd'hui il y a des campagnes BDS et qui s'appuie sur trois revendications. Là, c'est très important de les connaître. La première c'est la fin de l'occupation et de la colonisation. Et à ces exigences s'est ajouté la fin du blocus de Gaza depuis 2007. La deuxième, c'est l'égalité pour les Palestiniens d'Israël, l'égalité absolue. Et la troisième, c'est le droit au retour des réfugiés, qui est un droit inaliénable, qui fait partie des résolutions de l'ONU, notamment pour le droit au retour des réfugiés. Alors cette campagne, il y a la campagne BDS qui a été lancée par la société palestinienne. Et en France, on est une coalition d'à peu près 50 organisations et une quarantaine de comités locaux. Et parmi ces associations-là, il y a Génération Palestine, qui est une association de jeunes, donc qui s'engage pour l'application du droit international. Donc Génération Palestine fait partie de la campagne BDS.
Et donc c'est cette association-là que tu représentes aussi, tu en fais partie ?
Non, moi je fais partie des... Bon, je suis aussi très proche de Génération Palestine, mais je fais surtout partie des missions civiles. C'est la campagne internationale pour la protection du peuple palestinien.
Tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est exactement ?
Alors, la CCIDP en fait a organisé le départ de citoyens, de milliers de citoyens, en Palestine pour se rendre compte de la situation, pour voir ce qui se passait sur le terrain et pour témoigner au retour. Et moi, je suis partie avec l'émission. C'est ce qui a fait d'ailleurs, c'est ce qui a construit mon engagement et c'est aussi pour ça que je suis mobilisée aujourd'hui dans le cadre de la campagne BDS. C'est que j'ai vu aussi de mes yeux. Il suffit pas forcément de voir pour se rendre compte, mais ça aide beaucoup. Et moi, je suis partie en 2005 et en 2008, et à partir de là, évidemment, je suis revenue un peu militante, beaucoup militante même, en regardant concrètement comment, qu'est-ce qui se passait là-bas et à quel point on pouvait agir aussi ici en France, quoi.
Et ça consistait en quoi exactement cette mission-là dont tu parlais ? Tu étais allée combien de fois ?
C'est surtout des missions d'observation et de se rendre compte, d'aller au contact des gens finalement là-bas, d'écouter des témoignages, de voir la réalité, c'est-à-dire de voir des colonies, de voir des checkpoints, de voir d'avoir un aperçu un peu plus clair sur la situation qui existe là-bas, et de surtout pouvoir témoigner au retour, c'est surtout ça, quoi.
Et vous avez rencontré des gens là-bas en particulier, vous aviez des hôtes, un peu des associations hôtes.
Oui, voilà, c'est des gens de la société civile. On a rencontré des paysans qui luttaient. Moi, il y a une image que j'oublierai jamais. On a été cueillir des olives avec des paysans là-bas qui n'avaient pas pu accéder à leurs terres parce que l'armée israélienne les en empêche. Ça, c'était pour moi un beau geste de solidarité internationale. Mais voilà, en même temps, on sait qu'on est utile parce qu'on peut parce que des fois, il y a moins de violence quand il y a des internationaux qui sont avec les Palestiniens. Il y a moins de violence de l'armée, etc. Donc c'est aussi pour ça que notre présence est importante aussi.
Est-ce que vous avez pu évaluer ça ? Est-ce que vous êtes resté combien de temps à peu près lors de ces missions ?
C'est des missions qui durent à peu près 2 semaines. Voilà, c'est des missions de 2 semaines. Et oui, on l'évalue parce qu'on se rend compte que quand l'armée israélienne voit que même si maintenant ça protège malheureusement plus, mais quand il y a des internationaux, la violence est parfois moins grande, quoi. Même si, évidemment, des fois, même quand il y a des internationaux, ils lancent des balles réelles, etc. Donc ça veut pas forcément dire que les Palestiniens sont à l'abri. Mais voilà, quand j'y étais, c'est vrai que il y avait l'intérêt de notre présence, c'était vraiment de faire en sorte qu'il y ait moins de répression.
Et donc, à votre retour, comment Enfin, qu'est-ce qui se monte en France et et ailleurs d'ailleurs, mais bon.
C'est la chose la plus importante qui se monte en France et partout dans le monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la campagne BDS. En France, elle a été lancée en 2005, mais en France, elle a été lancée en 2009. Et donc moi, je sais qu'à mon retour, je suis partie une deuxième fois en 2008, et à mon retour, c'est ce qui a fait que, avec la campagne BDS, je me suis dit qu'on pouvait vraiment, nous, citoyens français, avoir une utilité, entre guillemets, faire en sorte, on peut pas régler le conflit malheureusement, mais on peut avoir un impact dans notre mobilisation aussi en France, pas seulement d'être solidaire avec eux en Palestine, mais aussi en France, on peut se mobiliser dans la campagne BDS, une campagne concrète, c'est une campagne qui marche, c'est une campagne qui remporte des victoires, aussi bien au niveau, parce que le boycott, c'est pas seulement le boycott des produits israéliens, c'est aussi un boycott où on demande à des artistes français de ne pas aller blanchir l'apartheid israélien là-bas quand ils se rendent. On essaie de faire un travail systématique d'écrire aux artistes pour leur dire que vous le vouliez ou pas, le fait de jouer aujourd'hui dans le régime d'apartheid israélien, c'est comme si vous jouiez au temps de l'Afrique du Sud des Bantoustans. Et donc, il y a des artistes qui sont de bonne foi, qui disent « bah non, mais moi je vais chanter pour la paix ». En fait, non, que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas ça, parce que le gouvernement israélien reconnaît aujourd'hui se servir des artistes pour redorer son image. Et donc ça, c'est une réalité que on essaie de faire passer aux artistes. Et ça, c'est pour le volet culturel. Après, il y a le volet... on a lancé une pétition, par exemple, pour soutien à la plainte contre Israël à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, il y a des obstacles à faire en sorte qu'Israël soit jugé pour ses crimes de guerre, etc. Mais c'est tout un travail qu'on doit continuer à faire sur le volet, bien sûr, économique, mais aussi culturel, sportif, universitaire, où là... par exemple, on se mobilise aussi dans le cadre de la semaine contre l'apartheid israélien, Israël Apartheid Week. C'est une semaine qui a été lancée justement pour faire parler de BDS dans les universités partout dans le monde. Et en France, chaque année, ça a lieu au mois de mars. On essaie d'organiser ça, mais on fait face à la censure. On fait face à la censure parce qu'il y a des universités aujourd'hui, dès qu'on veut parler de l'apartheid israélien, on nous censure. Et ça, c'est un véritable problème, notamment à l'heure où on parle beaucoup de liberté d'expression. Aujourd'hui, on ne peut pas, ça c'est une réalité, hein, on ne peut pas parler librement de l'apartheid israélien dans les universités en France.
Et est-ce que, donc tu parlais d'une campagne concrète, donc il y a ça consiste surtout en des pétitions et en des lettres ouvertes à des artistes.
Oui, voilà, des lettres ouvertes à des artistes, on fait aussi des actions bien sûr de sensibilisation et d'information, notamment dans les supermarchés où on invite les gens on donne l'information aux gens sur le fait de dire voilà, ces produits, ça vient d'Israël, souvent ça vient des territoires palestiniens occupés, pas tout le temps mais très souvent, et dans tous les cas nous on appelle au boycott d'Israël parce que c'est un état colonial et qui continue à oppresser un peuple à Gaza, en Cisjordanie, et c'est un état qui ne respecte pas le droit international. Et donc ça passe par effectivement des actions de sensibilisation, d'information, ça passe par des lettres ouvertes, ça passe par des campagnes, oui, d'information, etc. principalement.
Justement, j'ai une question sur ce sujet, sur le boycott plus particulièrement. BDS fait, il me semble, une veille sur l'ensemble des entreprises qu'on devrait boycotter en France, dont notamment une des plus connues, SodaStream, et également Teva. Et Teva, si je me trompe pas, n'a pas de branche dans les territoires occupés. Et je me demandais pourquoi vous appeliez à son boycott, elle aussi.
Alors, en fait, la campagne BDS France, on n'appelle pas seulement au boycott des colonies. Et ça, c'est fondamental de le dire et de le rappeler, parce que s'il n'y avait que les colonies, ça serait malheureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas seulement les colonies, il y a aussi, c'est ce que d'ailleurs la campagne BDS, elle regroupe les trois revendications des Palestiniens qui regroupent les colonies, si vous voulez, il y a les colonies et puis il y a le droit au retour des réfugiés palestiniens qui n'est pas accepté. Et il y a aussi les Palestiniens d'Israël qui subissent la discrimination. Il y a plus de 20% de la population israélienne qui est palestinienne, la population en Israël qui est palestinienne et qui, par exemple, n'a pas le droit d'acheter des logements. Voilà, donc le conflit israélo-palestinien, bien sûr, les colonies portent une grande importance, mais il n'y a pas que ça. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que nous, on appelle au boycott du régime en tant que tel. Parce que c'est pas seulement, même si Israël arrêtait les colonies, il y aurait toujours les discriminations pour les Arabes palestiniens notamment. Il y aurait toujours ces lois d'exception. Et la campagne BDS, elle se mobilise pas seulement contre les colonies, elle se mobilise contre l'ensemble du régime israélien. C'est pas les colonies seulement qui sont méchantes. Bien sûr, c'est très méchant les colonies, mais il y a aussi la répression des Palestiniens à Gaza. Il y a aussi et les massacres, le massacre même. Il y a eu plus de 2200 morts à Gaza. Il y a aussi ce que je vous disais sur les Arabes israéliens, etc. Donc c'est tout un système finalement qui s'est construit sur la ségrégation et sur des lois discriminatoires raciales. Et c'est contre ça qu'on lutte, vraiment. Et d'ailleurs, les Palestiniens, quand ils ont lancé cet appel BDS, ils s'inspirent très, très clairement, ils le disent d'ailleurs dans leur appel, de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'était une lutte, de la lutte victorieuse contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est vraiment avec la même campagne citoyenne et non violente, les mêmes formes, les mêmes modes d'action qui s'inspirent de cette campagne. Mais c'est aussi, effectivement, les Sud-Africains luttaient contre un régime et les Palestiniens, aujourd'hui, luttent contre le régime d'apartheid israélien aussi. Et donc Teva, c'est pas une entreprise dans les colonies effectivement, mais elle rend le marché palestinien captif finalement, puisque l'image de réussite de Teva, elle concerne que les Israéliens. Elle occulte la détérioration constante, par exemple, de l'accès des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie aux soins de santé, aux hôpitaux. Et tout ça notamment à cause aussi de l'occupation. Donc c'est voilà, ça c'est un exemple pour Teva, mais il y a tout plein de aujourd'hui on le sait de toute façon qu'il y a des produits aussi qui sont étiquetés Israël, et c'est un gros problème puisqu'Israël, et ça c'est pas de notre sort, est l'un des seuls États au monde à n'avoir jamais délimité ses propres frontières. Donc on ne sait pas officiellement où est le droit international à délimiter les frontières, mais aujourd'hui Israël exporte des produits, les présente comme des produits israéliens. Or, pour la grande partie d'entre eux, ils viennent en plus des territoires palestiniens occupés. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas à nous, citoyens, de faire la distinction entre les territoires palestiniens occupés et Israël. Si personne ne veut faire cette distinction, et en particulier Israël, eh bien, c'est le régime, mais encore une fois, c'est tout Israël qu'il faut boycotter. Et ce boycott-là, il concerne évidemment pas les individus. Ça, c'est important à rappeler. C'est pas une campagne qui s'adresse aux individus. C'est vraiment une campagne qui s'adresse une campagne politique contre le régime d'apartheid israélien.
Donc tu disais que cette campagne, elle vise essentiellement le régime. Et quelle modification au sein de ce régime on peut attendre des élections qui vont arriver ?
Malheureusement, je crains un peu le pire parce que bon, on voit que là, ça joue entre l'extrême droite et l'extrême droite, si vous voulez. En ce moment, il y a Netanyahou, donc c'est l'extrême droite. Et ça se joue et Lieberman, donc c'est et d'autres fascistes, c'est vraiment des fascistes parce qu'ils appellent ouvertement à l'épuration ethnique, etc. Voilà, c'est ça se joue entre eux malheureusement. Et donc on a vu cet été à Gaza, c'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce de folie meurtrière cet été à Gaza. Quel est le but? On ne sait pas. Je veux dire, si ce n'est tuer des gens, plus de 2200 morts, dont 500 enfants selon l'UNICEF. Ça n'a même pas de, j'ai envie de dire, déjà ils font la guerre à des civils, mais en plus ça n'a même pas de justification. Ils sont dans une espèce de fascisme qui va de plus en plus loin. Et bon, alors bien sûr on peut être pessimiste, et il y a de quoi être pessimiste, mais moi j'ai envie de faire passer le message en disant qu'on doit quand même aussi agir, essayer d'agir ici. Mais effectivement, il n'y a pas grand espoir à tirer des élections israéliennes.
Et pour rechercher un petit peu d'optimisme, je me souviens qu'il y a quelque temps, il y a eu un mouvement, une sorte d'Occupy en Israël. Ouais. Que représente en fait cette frange de l'opposition qui est pacifiste et progressiste ?
Alors nous, on travaille beaucoup à la campagne BDS, on travaille beaucoup surtout avec des anticolonialistes israéliens, et notamment une association qui s'appelle Boycott From Within, qui est la branche israélienne pour le boycott, si je peux...
Tu peux répéter leur nom, histoire qu'on les mette bien en lumière ?
Ouais, Boycott From Within, ça s'appelle Boycott From Within, ça veut dire en français boycott de l'intérieur. Et donc c'est quelques Israéliens qui se battent, mais qui se battent vraiment activement pour faire en sorte que que les gens boycottent, en gros, parce que eux, ils le disent d'ailleurs, hein, et d'ailleurs, l'appel BDS ne concerne pas les Palestiniens et les Israéliens parce qu'ils peuvent pas se boycotter eux-mêmes. Mais ils demandent, Boycott From Within est très actif, par exemple, en nous envoyant, en envoyant des informations sur les artistes étrangers qui se rendent en Israël pour qu'on leur écrive, et un travail très utile aux boycotteurs du monde entier pour leur dire, voilà, écrivez à tel ou tel qui compte se rendre en Israël pour qu'ils n'y aillent pas. Donc voilà, Boycott From Within, ils se boycottent pas eux-mêmes, mais ils appellent les sociétés civiles du monde entier à boycotter. Et donc effectivement, c'est une minorité, je pourrais pas les compter, hein. Vraiment, c'est de l'ordre peut-être de quelques personnes. Et en tout cas, c'est un groupe, et c'est, ils ont un site internet, et c'est vraiment une association à connaître qui joue un rôle extrêmement important dans la campagne BDS. Et nous, en tout cas, on travaille beaucoup avec eux aussi.
Et pour revenir sur le terrain franco-français, est-ce que vous avez une idée du positionnement du gouvernement français et des autorités représentatives
alors,
de l'État
en fait,
par rapport au BDS?
Oui. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, Michèle Alliot-Marie, quand elle était ministre de la Justice, elle a fait une circulaire. Et c'est extrêmement grave parce qu'à l'heure où on parle notamment de liberté d'expression. Elle a fait une circulaire pour écrire à tous les pour demander à tous les procureurs de la République de poursuivre les militants de la campagne BDS. Mais là où c'est extrêmement grave, c'est qu'elle n'a pas écrit de poursuivre des militants pour le boycott en général. Elle a bien précisé pour le boycott d'Israël.
Mais
ça montre bien à quel point.
Sur quel fondement juridique?
Incitation à la haine raciale. Voilà,
c'est une race.
Voilà, c'est devenu non parce qu'en fait il y a un article de loi qui parle de incitation contre une race ou la nation. Donc la nation est évoquée. Voilà, on nous poursuit sur ce fondement-là. Et en fait, la particularité vraiment de cette circulaire, c'est qu'elle vise, en plus elle est tellement politique qu'elle ne vise que le boycott d'Israël. Elle vise pas le boycott de la Chine pour ce qui se passe au Tibet par exemple. Elle vise pas les boycotteurs de la Chine ou elle vise pas les elle vise les boycotteurs qui se mobilisent pour le droit international en Palestine et en Israël. Et c'est tellement politique en fait que depuis ce temps-là, il y a des procès qui continuent, qui vont de report en report. Et ces procès-là, ils ont été menés par des officines extrémistes et fascistes pro-israéliennes, mais qui sont soutenues par le gouvernement.
Et comment tu expliques que autant les politiques de l'UMP que du PS aillent dans ce sens politique?
Ben c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, il y a le CRIF qui fait toute une série de pressions, qui fait des communiqués pour demander notamment que des artistes palestiniens ne soient pas autorisés à jouer. Et tout ça, c'est permis en France. Je veux dire, alors, c'est pour ça qu'il y a une certaine hypocrisie des gouvernements aujourd'hui de gauche ou de droite sur la question de la liberté d'expression en France. C'est-à-dire que, dès qu'il s'agit d'Israël, que ça soit la gauche ou que ça soit la droite, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et ça, c'est un très, très grand problème en France. Parce que nous, on se mobilise notamment avec l'Union juive française pour la paix, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'antisémitisme, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'islamophobie, pour le vivre ensemble, pour l'égalité. Et aujourd'hui, à cause notamment des gouvernements et de leur attitude, eh ben, aujourd'hui, malheureusement, à force de favoriser l'expression du CRIF, eh ben, il y a des choses terribles qui se passent. Il y a du racisme, parce que le CRIF défend des idées insupportables et le CRIF ne représente pas tous les juifs de France. Et ça, malheureusement, les gouvernements ne veulent pas l'entendre et ne veulent pas nous écouter et au contraire nous criminalisent quand on dit des choses comme ça. Et je saurais pas comment l'expliquer si ce n'est que, il y a un soutien très fort du CRIF. Des gouvernements successifs, des CRIF parmi d'autres officines d'extrême droite pro-israélienne.
Et est-ce qu'on peut peut-être finir la discussion en remettant un peu en perspective là avec les événements récents et notamment les marches qui ont été organisées le week-end dernier un peu partout en France et ailleurs d'ailleurs, mais notamment à Paris avec la présence de Benjamin Netanyahou dans le cortège.
Oui.
Vous êtes positionné par rapport à ça et comment?
Alors oui, il y a eu pas mal de communiqués pour dénoncer de plusieurs associations, dont l'Union juive française pour la paix. pour dénoncer ce scandale en fait, parce que Netanyahou est responsable, est directement responsable de la mort de je ne sais pas combien de journalistes palestiniens, dont notamment cet été à Gaza. Donc Israël tue volontairement des journalistes à Gaza et en Cisjordanie. Le centre de donc pour la liberté de la presse en Palestine a recensé 295 violations de la liberté de la presse par les autorités israéliennes, parmi lesquelles la mort de 17 journalistes, dont un caméraman italien travaillant pour l'AFP pendant la guerre de Gaza cet été. Et donc effectivement, voir Netanyahou à cette manifestation, ça nous a indignés, ça nous a scandalisés, mais je pense que ça a indigné et scandalisé au-delà du mouvement de solidarité avec la Palestine. C'est plus que de la récupération, c'est vraiment... On ressent du dégoût à voir Netanyahou à côté d'Omar Bongo, je crois, et je ne sais plus qui d'autre, quel autre dictateur et quel autre à côté du responsable de l'OTAN. Voilà, c'est vraiment scandaleux de voir ça. Et effectivement, ça en dit long sur l'instrumentalisation et la récupération de cette manifestation.
Et est-ce que le fait que... À partir du moment où un juif est mort, on considère légitime le fait que le président israélien puisse s'exprimer et que François Hollande cautionne ça. Est-ce que, dans un certain sens, on n'est pas en train d'appuyer un petit peu sur cet amalgame que, malheureusement, de plus en plus de gens font entre juifs et israéliens ?
Tout à fait, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. D'ailleurs, Netanyahou, il n'a pas raté son message. C'est tout à fait ce que vous dites. Quand il est venu, il a dit les Juifs de France doivent rentrer en Israël, en fait, ont toute leur place en Israël. Non, les Juifs de France, ils sont français. Ils doivent rester en France. Et voilà. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, c'est ce message qu'il essaie de faire passer. Effectivement, c'est tout à fait ça. Et c'est extrêmement, ça renvoie à effectivement l'amalgame juif égale Israël et le fait même qu'ils aient été enterrés en Israël, etc. Apparemment, d'après ce que j'ai lu quelques articles, ils disaient qu'ils avaient eu des pressions pour qu'ils soient enterrés en Israël. Leur famille avait subi des pressions pour qu'ils soient enterrés en Israël. Et si c'est vrai, c'est vraiment encore plus dégoûtant, j'ai envie de dire, c'est encore plus scandaleux. Parce que il y a l'Union juive française pour la paix qui vient de publier notamment un communiqué qui s'appelle « Le piège tendu aux Juifs de France ». Il y a quelques communiqués qui sont vraiment excellents, qui ont été publiés récemment sur le site de l'Union juive française pour la paix. Je vous donne le site, c'est ujfp.org, et le nôtre de la campagne, c'est bdsfrance.org. C'est vraiment important, parce qu'il y a d'autres voix un peu dissonantes, justement, que, évidemment, le gouvernement ne veut pas entendre, mais qui sont importantes, et qui sont nuancées sur ce sujet, et c'est important d'entendre effectivement une autre voix juive s'exprimer là-dessus, quoi.
Justement, peut-être pour finir, est-ce que tu peux nous dire comment à une échelle individuelle et éventuellement collective, on peut s'engager en France au niveau de la campagne BDS ?
Alors en fait, on est un mouvement collectif, donc il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une cinquantaine d'organisations politiques, syndicales, associatives qui ont rejoint BDS France. Il y a aussi des comités locaux, donc de citoyens, etc., qui mènent des campagnes dans des comités locaux. Dans chaque ville où on est, on peut agir pour la campagne BDS. Il y a beaucoup de comités dans différentes villes, etc. On peut aussi agir dans sa fac, par exemple, si on voit des accords avec des universités israéliennes, ou tout simplement en essayant de faire parler de la campagne BDS dans sa fac, ou dans son syndicat, ou là où on est, on peut faire passer des motions dans son syndicat, par exemple, on peut essayer de faire adhérer son syndicat à BDS, si c'est pas déjà fait. On peut essayer de développer des campagnes BDS, de faire des actions d'information, de fédérer un petit groupe dans sa ville pour faire parler de la campagne BDS. On peut organiser des événements autour de la campagne BDS. Il y a énormément de choses à faire, individuellement ou collectivement, pour développer cette campagne.
Est-ce que tu sais un petit peu sur Marseille si ce qui se fait
Oui. Ouais. Oui, il y a un collectif BDS à Marseille, qui mène quelques actions, de plus en plus d'actions BDS. Donc, il existe en tout cas un comité BDS à Marseille. Sur le site de la campagne, il y a leurs coordonnées. Je vous rappelle, le site de la campagne, c'est www.bdsfrance.org. Et pour tous ceux qui veulent rejoindre la campagne, il est possible de nous écrire et puis nous, on peut mettre en relation les gens avec des responsables de comités locaux ou des référents de comités locaux.
Ben, merci en tout cas de toutes tes informations.
Avec plaisir.
Voilà, bon courage, il y a du boulot, effectivement.
Ouais.
Et puis à bientôt. Voilà, donc c'était la parole de Imen Ab, militante dans la campagne BDS à Paris, mais qui nous a aussi un peu informé sur les actions qui se mènent à Marseille. Voilà, allez voir les sites, suivez ce qui se fait. Quelques petites précisions.
Ouais, elle en a parlé dans le reportage, mais je vous encourage vivement à aller vous balader sur internet, sur le site de l'UJFP, qui est l'Union juive française pour la paix. Très important pour faire tomber les idées reçues et éviter les amalgames, entre juifs et sionistes ou entre juifs et israéliens.
Merci de cette précision qui est très importante pour éviter de tomber dans le simplisme qui est ambiant en ce moment. Hein, voilà, donc la vigilance s'impose. Camille, tu vas nous parler pour finir cette émission de la lettre ouverte qu'a écrit Louis Plenel, donc cofondateur de Mediapart, à François Hollande. C'était donc cet été, c'est ça?
Oui, c'était le 23 juillet dernier, suite aux événements qui sont passés à Gaza. Alors, c'est une lettre que je vous propose. Donc, je vous propose quelques extraits, parce que je ne vais pas la lire en entier. Et je trouve que ça pourrait être intéressant de terminer là-dessus, parce que ça fait un peu résonance à tout ce qu'on vient de dire. Ça reste toujours d'actualité, même si ça date de juillet dernier. Et ça va vous rappeler un peu tout ce qu'on vient d'évoquer en termes d'amalgame et de contexte droit à la liberté d'expression. Donc en fait, sa lettre, elle est assez longue, mais elle est très structurée, elle est en 7 points. Je ne vais pas vous les lire tous, mais je vais en prendre un ou deux, notamment le second point où il s'adresse à François Hollande en lui disant qu'il a commis une faute intellectuelle qui est grave, qui est celle de confondre sciemment antisémitisme et antisionisme. Il dit que ce serait s'aveugler que de nier qu'en France, effectivement, la cause palestinienne a ses égarés, antisémites en effet, mais tout comme la cause israélienne a ses extrémistes, professant un racisme anti-arabe, ou anti-musulman. Et donc assimiler l'ensemble des manifestations de solidarité avec la Palestine à une résurgence de l'antisémitisme, c'est se faire le relais docile de la propagande de l'État israélien. Donc, c'était un des premiers points. Il revient après sur la liberté fondamentale qui est celle de manifester. Et il rappelle qu'en démocratie, c'était une très longue lutte pour pouvoir l'obtenir, pouvoir s'exprimer par sa plume, se réunir dans une salle ou défiler dans les rues pour défendre ses opinions. Et ça reste un droit fondamental. Et c'est un droit qui ne suppose pas d'autorisation, un droit qui n'est pas conditionné au bon vouloir de l'État ni de sa police, un droit dont les abus éventuels sont sanctionnés a posteriori et en aucun cas à présumer a priori. Donc un droit qui, évidemment, vaut pour les opinions, partis, colères, qui nous déplaisent ou qui nous dérangent. Un troisième point qui vient soulever, c'est le fait que François Hollande a commis une faute républicaine en choisissant de donner une dimension religieuse au conflit israélo-palestinien. Il rappelle que c'est ainsi qu'après l'avoir réduit à des querelles trop loin pour être importées en France, il a quand même choisi symboliquement de faire un geste d'apaisement en allant à la rencontre des représentants des cultes, ce qui n'est pas forcément le meilleur des choix. Et enfin, il vient rappeler qu'il commet une faute historique, François Hollande, en choisissant d'isoler la lutte contre l'antisémitisme des autres formes de vigilance antiraciste. Parce qu'il le rappelle comme s'il fallait la mettre à part, la sacraliser, la différencier, comme s'il fallait une hiérarchie dans les crimes contre l'humanité, le crime européen de génocide l'emportant sur d'autres crimes européens esclavagistes ou coloniaux. Voilà.
Et je pense que pour bien comprendre tout ça, parce que c'est très chargé, il y a beaucoup de choses dans cette lettre, il faut se rappeler un petit peu du contexte dans lequel elle a été écrite. Et donc on était en juillet 2014 à l'époque, donc il y avait une offensive d'Israël sur Gaza. la dernière en date. Et à ce moment-là, souvenez-vous, en France, avaient lieu des manifestations de soutien aux Gazaouis, de nombreuses manifestations, dont certaines se sont affranchies de demander l'autorisation et avaient donc été interdites, et donc ont été empêchées parfois par la police. Il y avait eu aussi pas mal de débordements, notamment à la bord de certaines synagogues. Donc voilà le contexte, voilà pourquoi Edwy Plenel rappelait le droit de manifester et le fait qu'il n'y avait peut-être même pas besoin de demander d'autorisation dans ce cas-là pour aller manifester une solidarité avec un peuple humain comme un autre.
Merci Damien et Camille de ces précisions. C'est important de remettre tout ça en contexte et de dédramatiser et démythifier un peu toutes ces questions autour de ce fameux conflit israélo-palestinien. Je pense qu'on ne manquera pas de suivre l'actualité de cette région, même de très près, assez prochainement. On vous tiendra au courant, évidemment. Je crois que c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui, de ce 17 janvier 2015. Merci à toi, Damien. Merci, Camille. Merci à toi, Luc, qui n'a pas de micro, mais qui est derrière les manettes. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. Et en attendant, portez-vous bien.
Et restez à l'écoute. Et bonne soirée.